Et cette semaine, nous allons découvrir un univers, l'univers de la prostitution, avec notre invitée Elena qui va nous accompagner tout au long de ces 5 rendez-vous. On va peut-être commencer par poser les bases. Prostitution égale profession. Clairement, c'est votre profession.
C'est ma profession.
Une profession choisie, parce que là, on va déjà aussi expliquer que vous êtes vous indépendante. C'est vrai que quand on parle prostituée, on se pense souvent NAC. C'est pas du tout votre cas. C'est un choix que vous exercez en toute indépendance.
Ah, c'est un choix total. La personne me force et personne m'arrêtera non plus.
Alors, ça fait déjà quelques années. Depuis 1988, vous avez commencé la prostitution à Lyon. On revient un petit peu en arrière, comment tout a commencé, comment vous avez mis le premier pas dans l'univers de la prostitution?
Je travaillais dans un cabaret, un bar à champagne, et on m'a fait comprendre que si je voulais bien gagner dans le bar à champagne, il fallait aller plus loin. Comme je ne suis quand même pas bête, que le patron allait en gagner une partie, je me suis dit, autant que je gagne moi, un soir j'ai claqué la porte et je me suis mis devant son bar en train de travailler pour moi. Au départ, ça a été plus pour l'embêter que pour autre chose. Mais en embêtant cette personne, je me suis rendu compte aussi que j'en ai gagné de l'argent très vite ce soir-là.
Le premier souvenir, la première fois, le premier client.
Ce soir-là, j'avais bu quelques whisky quand même, donc le courage était là. J'ai eu la chance, dans les débuts, de faire pas mal de clients qui étaient pas mal en plus, donc qui facilitaient la chose. Mais c'est vrai que le soir, quand on rentre, l'alcool fait moins son effet, on n'a peut-être pas tant de fierté, on réfléchit et tout. Mais après, avec le recul, quand on regarde ce qu'on a gagné, les hommes qu'on a pu avoir, qu'on n'aura jamais en temps normal, n'a pas trop de remords, hein, je peux vous le dire. Moi, je n'ai pas eu de remords. Là.
Un mot qui peut peut-être faire sourire quand on parle de prostitution, on va parler d'éthique. Quand on est indépendante, on a sa propre éthique, on fait ses propres choix, on l'a dit, que ce soit au niveau des clients, des pratiques, de l'âge.
Moi, je me mets une barrière. Moins de 25 ans, je ne prends pas. Voilà. Parce que moi, j'ai des enfants, c'est un minimum de respect que je dois vis-à-vis des jeunes. Si un jeune vient, même qu'il insiste, en rigolant, je vais lui dire, bon, je peux être ta mère, il y a plus jeune, vas-y voir. Voilà, là c'est une barrière. Toutes les filles respectent pas, mais moi ça je le respecte.
On est moins en moins regardant chez les prostituées de la nouvelle génération?
Ah oui, elles ne regardent pas ça. Hein. Même si c'est mineur, pour elles, ça n'a pas d'importance du moment qu'ils payent. Voilà. Pour moi, je peux pas. C'est même en me forçant, même si l'argent était important, je peux pas. Voilà, moi je regarde la personne, je vois comme si c'était un de mes enfants. Hein.
Alors justement, c'est important, vous parlez de vos enfants, de la famille. Quel est le regard de votre famille sur votre métier?
Quand ils l'ont su, ça les a étonnés, un peu choqués. Puis après, bon, ils se sont dit, ma foi, c'est ton choix. Hein. À une période sur Lyon où j'allais pas très bien, où on peut sombrer dans l'alcool et trucs comme ça, je sentis que je dérapais un petit peu. J'ai fait appel à un de mes frères aînés et il a vu que j'avais besoin d'aide. Donc il est venu à Lyon me chercher, j'ai pris quelques temps de repos, on a eu l'occasion d'en discuter et tout. Moi-même, j'ai demandé de l'aide avant de sombrer dans l'alcool, la drogue et le tout et n'importe quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer des prostituées à Lyon qui sont mortes, quand on est travesti, où la famille n'a même pas assisté aux enterrements. Voilà, moi, là, j'étais choquée de voir que ça soit que des prostituées qui soient présentes le jour de l'enterrement et qu'aucun membre de la famille ne soit venu.
Vous avez des enfants garçons ou filles?
Alors moi, j'ai 5 filles et un garçon.
Imaginons que l'une d'elles décide de suivre un peu vos traces.
Le cas se posera pas parce que bon, elles ont, au niveau école, tout ça, elles ont été très bien, elles ont une bonne situation, donc non. Si c'était quelqu'un qui avait 40 ans, qui vient me voir, qui me dit que financièrement, elle est un peu coincée, qu'elle voudrait faire ça, je vais le prendre mieux parce que quelqu'un de 40 ans, il a la tête sur les épaules, il sait un peu plus ce qu'il fait. Moi, ce qui me tue un peu, c'est de voir des jeunes de 20 ans qui gâchent leur vie.
Et ça, vous en voyez régulièrement?
Et de plus en plus.
Dans cet univers de la prostitution, on plaint un peu les filles et en même temps on les rejette un peu, c'est un peu tout ça mélangé?
Mais moi je pense que les gens ne nous rejettent pas par le fait de la prostitution. Ce qu'ils rejettent, c'est le fait qu'on gagne de l'argent avec ça. C'est ça qu'ils rejettent. Parce que si j'étais affichée en tant que libertine, fréquenter tous les clubs d'échangistes et m'envoyer en l'air avec tout le monde, je serais tout à fait admis, normalement. C'est le fait du gain d'argent qu'on a. Et ça, les gens ne l'acceptent pas, voilà.
Est-ce que vous vous considérez comme d'utilité publique?
Ah mais tout à fait, parce qu'il y a des hommes qui sont quand même sexuellement assez hard. Donc s'ils ne trouvaient pas une prostituée pour assouvir leur fantasme, hein, je ne sais pas où ça pourrait aller. Moi j'ai un client fréquent qui me demande de mettre une perruque, des couettes, une mini-jupe et un cartable et de marcher entre les voitures, excusez-moi. Mais le jour où il n'arrivera pas à aboutir, il ira où? Devant une école, hein. Pourquoi? Il recherche quoi? Il recherche la petite fille. Ou même nous, des fois, en tant que prostituée des années de métier, on est encore choqués. On comprend vite la mentalité du client.
Notre deuxième rendez-vous dans l'univers de la prostitution avec Elena, prostituée depuis 1988, qui nous permet de mieux comprendre, de décrypter un petit peu ce monde-là. On l'a dit, vous avez commencé à Lyon, vous êtes à Limoges depuis 2004. Il y a une vraie différence entre la grande ville qu'est Lyon et Limoges, à la fois dans le type de prostitution, dans la relation avec la clientèle?
Non, c'est le même système. Mais Lyon, il y a eu un afflux en 2004 de l'Est. qui a été très violent vis-à-vis des proxénètes. Bon, dans toutes les villes, une fille qui est ancienne, qui a sa place, une autre vient de se mettre, il y a bagarre. Seulement là, les violences, s'il y avait bagarre entre filles, le lendemain, on avait les proxénètes sur le dos. Donc là, dangereux. Depuis 6 mois, c'est ce qui se passe à Limoges, et je crois qu'on doit être 4-5 à tenir tête encore le soir, au champ de juillet. Tout le reste est parti. Certains ont carrément arrêté de peur.
On a la sensation qu'on voit beaucoup plus de prostituées en journée, alors qu'avant, on avait le cliché de la prostituée le soir sur le champ de juillet.
Ouais, ça commence à 10h du matin, ça finit à 4-5h du matin, voire 6h, 7h le week-end. Donc oui, il y en a partout. Puis à une époque, c'était concentré que sur le champ de juillet, et à Donzelot, le quartier africain. Maintenant, il y en a, ben, ça va à Gare des Charentes, Sécurité sociale, Donzelot, Champ de Juillet, Général Leclerc, ça s'est étalé partout.
Elles sont beaucoup plus jeunes aussi, ces filles de l'Est, donc c'est des relations différentes, c'est aussi des clients différents.
Ah non, c'est pas les mêmes clients. Il y a des clients, de toute façon, qu'on connaît depuis des années, qui n'iront jamais, même pas essayer. Ils passent, ils regardent, d'ailleurs, peut-être parce qu'aussi, ils ont un respect de leur jeune âge. Certains clients arrivent à les respecter, pas tous. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'il y a le fait tarif, ça y joue, mais le client revient toujours sur l'ancienne prostituée.
Et puis il y a la langue aussi, certaines ne parlent même pas le français.
Non mais là, eux, c'est l'acte sexuel rapide. Et puis ça se fait dans un coin de buisson, sur un parking public. Ça, elles regardent pas. Pour elles, elles sont pas gênées à ce niveau-là, quoi. Je vois récemment, là, ils s'en installés devant le lycée d'Onzelot. Il y a un lycée, 3 filles ou 4 filles maintenant sont installées. La journée, on les voit dans des tenues. Les enfants voient à la récréation. Ils ont quand même moins de 15 ans, ceux qui sont dans ce lycée.
Vous assistez des fois à des dérives qui, même en tant que prostituée depuis 88, vous choquent aujourd'hui?
Qui choquent totalement, hein, totalement. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, il y a des toilettes publiques en ville. Quand vous voyez que le client, déjà le client pour lui, moi je dis qu'il ne se respecte pas, rentre dans les toilettes publiques en plein jour avec une fille. Mais tout le monde comprend ce qu'il va faire là-dedans.
Il y a aussi les tarifs, la langue, mais il y a les pratiques aussi. Ce sont des filles qui acceptent des choses que les prostituées habituelles avaient par principe de ne pas accepter.
Alors, depuis 2 mois, on a une recrudescence de demandes sans préservatif. Qui s'était perdu, il y a eu une période où c'était la mode. Ça s'était perdu, ça s'était bien calmé, et depuis 2 mois, ça a bien repris. Si on établit un bilan, ici sur Limoges, ce qu'on appelle la prostituée de nuit, qui est connue depuis des années, tout ça, on n'a jamais été faire un avortement, on n'a jamais attrapé une maladie vénérienne, on n'a jamais été soigné pour ça. Sur les 4 dernières années, on a vu 5-6 filles enceintes abandonner leurs enfants de l'Est. Ça laisse à douter d'où viennent les enfants. Des avortements, on en voit en pagaille. C'est le proxénète qui l'engrosse ou c'est le client, on ne sait pas. Chose qui peut nous faire penser que bon, ben, l'utilisation du préservatif, il n'y est pas.
Hein. Il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est Internet. On en parle beaucoup en ce moment, c'est très à la mode. Les escort girls, notamment ces jeunes filles qui se prostituent, puisqu'il faut appeler les choses comme elles sont sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne pour vous aussi?
Non, pas du tout. Ça, c'est plutôt le genre de client qui veut faire très très caché. Qui veut pas que ça se fasse du tout. Venir au champ de juillet prendre une fille avec sa propre voiture, c'est pas non plus évident. Il faut se montrer. Moi, pour la prostitution d'Internet, moi, c'est une chose que j'essaierai pas, parce que pour moi, les risques sont beaucoup plus grands. On ne sait pas qui on reçoit, on ne voit pas la personne. Même qu'on fixe un rendez-vous, on ne sait pas s'il appelait avec une cabine téléphonique ou un portable ou quoi que ce soit. Nous, on a l'occasion quand même de travailler à plusieurs, de prendre des plaques de voiture, de bien souvenir du visage de la personne, de faire attention.
Le client prend autant de risques que la prostituée, finalement, sur ces genres de pratiques. On veut être discret, mais on ne se rend pas compte du danger qu'on prend.
Non, pas du tout. Enfin, nous, on entend des clients qui parlent, qui se font escroquer, hein. Nous, on est fichés aux mœurs, on est connus. Si le client, ça s'est mal passé, il va dire, bon, mais j'ai pris la blonde qui était sur le bas-côté à l'arrêt de bus, direct, ils savent c'est qui. Moi, j'avais un monsieur qui m'avait demandé si j'étais intéressé, qu'il pouvait me faire un site internet avec mon numéro de téléphone. Moi, il est en finance. Tu dis que non, ça ne m'intéressait pas, j'avais mes jambes pour aller jusqu'au parc.
Et c'est avec Elena que nous passons cette semaine dans l'univers de la prostitution pour mieux découvrir cette profession. On va parler vraiment de la relation avec le client, ça c'est quelque chose évidemment de très particulier. Comment vous la qualifieriez, cette relation avec les hommes qui viennent vous voir?
Ça dépend, il y a toute catégorie de gens. Donc il y a le monsieur qui va venir très timide, qui va pas réellement oser demander ce qu'il veut. Mais il y a des bons moments aussi quand même avec certains clients, on peut pas dire. C'est vrai que bon, il y a toujours... quand même qui veulent la relation sexuelle, mais il y a toujours une autre demande.
Oui, donc vous êtes une véritable oreille, en fait, pour ces hommes-là.
Ah ben oui, il y en a qui viennent, qui nous demandent aussi des choses qu'ils pourraient faire avec leur femme. On a eu pour la Saint-Valentin, on a eu de la demande. Qu'est-ce qu'ils pourraient pour un homme épater sa femme? On a même eu des femmes qui venaient nous demander comment se fait-il que les hommes venaient nous voir autant. Et souvent, on avait le réflexe de dire, ben, si souvent, le soir, tu couchais les enfants un peu plus tôt, préparer une bonne baignoire, des petites bougies autour, une petite tenue sexy et tout, ça pourrait un peu remettre quelque chose dans le couple. Ouais, c'est vrai que c'est amusant quand ils nous demandent ces choses-là. On trouve ça bien parce que quand un homme arrive à se confier vis-à-vis d'une prostituée et dire, voilà, c'est pas que j'ai pas envie de ma femme, mais il y a quelque chose, une distance qui s'est éloignée. Comment faire pour essayer de la reconquérir ou de lui dire, bon, il faudrait qu'elle ait envie ce soir de moi?
Et ça veut dire que ce sont des occasionnels, la plupart du temps, ou il y a quand même une grosse partie de réguliers qui viennent vous voir, qui sont attachés à vos services régulièrement?
Oui, on a des réguliers qui viennent même plus nous chercher au parc parce qu'ils ont un numéro de téléphone, ils nous appellent directement. Ils n'ont plus envie de se montrer là-bas.
Avec des réguliers, on noue forcément une relation particulière, on discute, on finit par bien se connaître. Est-ce qu'on arrive à s'attacher ou est-ce que c'est presque la faute professionnelle?
Sachez, ça peut devenir même plus du tout un client, un bon copain avec qui on va sortir manger et tout ça, parce qu'il s'est installé une forme de respect. Aussi bien lui vers nous que nous vers lui. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises ici sur Limoges, un client s'attache trop. J'ai eu des cas, il est venu avec des cadeaux, des trucs comme ça, c'est moi qui mets une barrière qui arrête. Qui n'est plus de contact avec moi, parce que souvent on sait qu'aussi ça, c'est des personnes qui peuvent tomber dans un engrenage pas possible, qui peuvent s'endetter. Voilà. Moi, je mets une barrière. J'ai pas envie qu'un jour on me dise, voilà, ben, il a fait le con, il a fait des crédits, il a emprunté, il a tout dépensé. De toute façon, mon client, je lui fais jamais croire que je vais l'aimer. Moi, le client, je lui fais bien comprendre que c'est son argent qui m'intéresse.
Prendre du plaisir, ça aussi, c'est une idée reçue. Une prostituée ne prend jamais de plaisir avec un client, ou alors, ça peut arriver, ou est-ce que là encore, c'est la faute professionnelle en cas de plaisir?
Mais bien sûr que ça peut arriver. Si une prostituée n'arrivait jamais à prendre de plaisir, ça veut dire que sexuellement, elle a un petit problème. On est humain. Mais on peut pas dire qu'on prend le plaisir avec tous les clients. Non, mais ça arrive. On peut pas dire le contraire.
Ça veut dire que c'est aussi un besoin pour la prostituée de rencontrer les clients?
Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'il y a des clients qui nous font bien rire aussi, hein. Faut pas croire, hein. Avant-hier, j'ai fait un client qui m'a bien fait rire, voilà. On était plusieurs à l'avoir vu. Effectivement, c'est la loi du travail. On l'a repéré. En fin de compte, c'est un client qui avait envie de boire un whisky, quoi. Il m'a payé 150 euros pour venir chez moi, boire un whisky, discuter, et il est reparti. Voilà. Il m'a tellement sorti de conneries que j'en ai ri, que j'avais plus de maquillage. Mais bon, j'ai passé une soirée pour juste faire ça, et en fin de compte, je me suis rendu compte que lui, il est parti plus satisfait que si même il avait eu une relation sexuelle.
Pour vous, c'est presque le client idéal, finalement.
Tout à fait. Moi, j'en veux bien 10 comme ça par jour.
Notre avant-dernier rendez-vous avec Elena pour parler de l'univers de la prostitution. Elena, je rappelle que vous êtes vous prostituée depuis 88, vous êtes depuis 2004 installée ici à Limoges. On va parler de législation dans quelques instants. Juste auparavant, terminer le précédent rendez-vous en parlant de 10 par jour. Justement, ça, c'est une question. Combien de clients par jour? C'est quelque chose de très aléatoire ou il y a une moyenne à peu près régulière?
Honnêtement, 10 par jour, je pourrais pas. Non, mais parce qu'il y a des clients, des fois, qui nous demandent des choses assez particulières. C'est épuisant, c'est fatigant. Il faut rechercher bien ce qu'ils nous demandent. C'est du temps. Et des fois, quand vous avez passé 3 heures de temps avec un client, vous n'avez plus envie de ressortir. Alors moi, j'estime que si je fais un client par jour, mais un bon client qui évite la relation sexuelle, je suis satisfaite.
Alors ça veut dire qu'après, au niveau de la législation, alors là aussi on entend tout et n'importe quoi, concrètement, au niveau de la prostitution, que dit la loi?
Alors, la loi dit que le racolage actif est passif et répréhensif.
Qu'est-ce que le racolage actif et le racolage passif, déjà?
Alors passif, c'est par exemple de rester dans une tenue qui porterait à penser qu'on se prostitue, sans bouger pendant des heures sur une même place. Et le racolage actif, c'est de faire des signes, des gestes pour appâter la personne et aussi lui demander de l'argent.
Alors ça veut dire que vous, sur cette loi-là, votre regard, c'est quoi?
Le racolage actif, pour moi, faire des signes, des gestes, je peux comprendre que ça peut gêner. On ne sait pas qui arrive dans la voiture. Il peut y avoir confusion. Mais sur le fait de dire que bon, ils vont répréhender la prostituée ou le client, bon, je pense que ça changera rien du tout, parce que le fait qu'on ne restera pas assis sur une place, on fera le tour, on marchera, on arrivera toujours à trouver des clients, parce que les clients nous connaissent. Et le problème, ce qui se passera, c'est qu'une jeune fille qui se promènera sur les lieux du Champ de Juillet ou dans les endroits connus pour la prostitution, qui elle se promènera réellement, là, ils feront l'amalgame entre dire c'est une prostituée ou c'est pas une prostituée, mais pourra se faire aborder. Que quand on est positionné à notre place en permanence, ils savent distinguer la prostituée que celle qui marche et qui se promène. Des fois, il y a des jeunes qui viennent au parc le soir, ben, qui sortent de boîte de nuit, qui traversent dans une tenue même pire que la prostituée. Ça peut porter à confusion aussi, hein.
C'est de l'hypocrisie de reconnaître la prostitution, mais d'interdire le racolage. Enfin, c'est une espèce de façon de noyer un peu le poisson.
Et ça fera que cacher la prostitution. Et qui dit cacher la prostitution, plus de risques. Pour la fille, plus de risques pour le client,
Ça veut dire qu'aujourd'hui, les plus pénalisés, c'est qui? C'est les prostituées ou c'est les clients? Ça reste les prostituées?
Non, on peut pas trop dire à Limoges. Réellement, avec la police de nuit, on n'a pas ce souci. J'ai dû faire 2 gardes à vue. Sur Lyon, c'était minimum 1 garde à vue par mois.
Vous êtes entendu par qui, finalement? Il y a des associations qui vous accompagnent?
Oui, il y a Entraide, il y a Aide et il y a Au cœur de la rue. Alors, c'est surtout Au cœur de la rue. C'est une association de prêtres, de sœurs, de gens catholiques, religieux, qui viennent le jeudi, qui ont un petit local où on va boire le café, discuter, tout ça. Contrairement à ce qu'on peut passer, ce sont des hommes de religion, mais qui écoutent nos conneries, des fois, avec des clients.
Au niveau des impôts, là, vous existez, forcément. Là, on vous reconnaît. Quand il faut ramener un peu d'argent à l'État, officiellement, on peut être profession prostituée.
Alors, si la prostituée veut se déclarer, elle se déclare. Ces professions autres, ils reconnaissent pas la profession de prostituée. Nous, on s'en fout, on déclare rien du tout parce qu'on le dépense le jour même ce qu'on a gagné. L'État nous le prend pas. Mais si on a un trop gros revenu, effectivement, autant le déclarer parce que les impôts sont là.
Là, ils savent vous retrouver, par contre.
Tout à fait. Il y a du vécu.
On n'en dira pas plus.
Donc, le mieux, c'est de pas avoir de compte bancaire et pas de voiture à son nom. Parce que moi, je suis à ma 4e voiture saisie. Parce que quand on prend les PV de racolage de 600 euros, eh bien, mon matin, je pars à la voiture, contrôle de police, véhicule gagé, véhicule vendu. Si, et Sarkozy avait dit que toute personne prenant l'argent d'une prostituée est un proxénète.
L'État le proxénète.
C'est le proxénète.
Et notre dernier rendez-vous avec Elena. Nous sommes toujours dans cet univers de la prostitution que nous avons découvert depuis le début de la semaine. On va parler d'avenir, justement. La retraite à 60 ans pour les prostituées, par exemple. C'est une belle utopie.
Non. Il y en a au champ de vie, elles ont plus de 60 ans.
Alors cet avenir, vous le voyez comment aujourd'hui? Vous imaginez que c'est une profession qui va évoluer dans le bon sens ou pas forcément?
S'ils ouvrent la maison close, ça évoluera dans le bon sens. S'ils font dans la répression, ça aggravera la situation.
Pourtant, on n'est pas forcément parti dans le sens de la maison close.
Pourtant, ça serait plus simple. Pour tout le monde, de toute façon, à la vue de la population. Disons que comme une ville pour Limoges, l'extérieur, les zones industrielles sont assez vastes, assez larges. Une maison close serait ouverte. D'abord, ça serait discret, propre, suivi médicalement. Suivi par les impôts, c'est pas grave. Mais au moins, ça serait fait dans toute légalité, aussi bien en sécurité pour le client que pour la prostituée. Ou actuellement, ça doit coûter dans les 80 euros à la semaine pour travailler dans une maison close. Hein. S'il faut payer, le proxénète va pas être tout à fait d'accord. Hein.
Ça permettrait de faire rentrer la prostitution un peu plus dans les mœurs aussi?
Oui, et puis il faut se dire qu'il y a des hommes qui ont besoin des prostituées. La prostituée est là, mais s'il n'y a pas de client, la prostituée ne sera pas là. Hein. Faut pas croire. Hein. Je me vois pas m'en rester pendant 6 mois plantée au Champ de Juillet pendant, je sais pas moi, de 22h à 6h du matin et voir personne. Et longtemps, je serais rentré sans dormir.
Donc si c'est le cas depuis 88, c'est qu'a priori, il y a toujours une demande aujourd'hui pour les prostituées.
Il y a toujours. Et il y a de plus en plus.
Alors on va finir avec un peu de sourire. Si je devais vous demander votre souvenir le plus marquant.
Ah oui, alors sur Lyon, il y a 10 jeunes. D'ailleurs, on en parlait récemment. On va pas tarder. Sûrement, les filles à Lyon doivent le voir en ce moment. À la période des fraises, il vient. Donc il paye bien. Mais il nous demande de mettre les fraises devant le pneu de sa voiture. Donc une barquette de fraises, on met une fraise, il roule dessus, une fraise, il roule dessus. Quand la barquette est vide, il s'en va et au revoir. Jamais compris pourquoi.
Et les canettes de bière?
Oui, mais donc c'était à l'époque où j'étais à Lyon, et tu prends un petit client comme ça, et enfin, qu'il voulait la sodomie, enfin pas moi, hein, lui, et il a trouvé que mon gode était un petit peu petit. Donc j'ai été voir une collègue qui travaillait dans le même bâtiment que moi, elle lui demandait un gode plus grand. Je lui ai servi une canette de bière. La bouteille allongée. Hein. Et quand je suis redescendue, je l'ai trouvée dans une position un peu exigeuse. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, elle est rentrée complète. Et sur le coup, j'ai pas réagi tout de suite. Et je dis quoi? Il m'a dit, la bouteille. Bon. Bon, on est un petit peu habitué à ce genre de choses. Donc, on lui a fait sniffer du poppers. La bouteille ne sortait toujours pas. Et donc, on a fait l'intervention de police secours. C'est moi qui étais le plus choquée. Parce que c'était la première fois que je faisais intervenir les pompiers. Ils m'ont dit, on vous envoie une sage-femme. Je croyais qu'ils se moquaient de moi. Mais non, ils se moquaient pas de moi, donc ils l'ont mis sous perfusion comme pour faire accoucher une femme. Et ça faisait rire, bien sûr, la police et les pompiers, quand la sage-femme disait au monsieur, poussez. Et comme j'étais dans un truc qui était un ancien hôtel, les escaliers vraiment très étroits, il n'y avait pas moyen de sortir le brancard par les escaliers, ils l'ont sorti par la fenêtre. Je crois que j'ai eu la honte de ma vie pour le client parce qu'il était dans son simple appareil à 4 pattes. Donc il m'a amené à l'hôpital. Après, j'ai pas cherché à savoir ce qu'ils lui ont fait parce que...
Mais les voisins s'en souviennent encore.
Je suis revenu dans le quartier, ils s'en souviennent toujours.
Donc ça veut dire qu'on vient voir la prostituée pour faire des choses qu'on n'oserait même pas demander évidemment à sa femme.
À la base, c'est ça qu'il faut se dire. Si on a autant de clientèle aussi, et de clientèle d'hommes mariés, c'est que souvent, si certaines femmes faisaient des petits efforts vis-à-vis de leur mari, on aurait beaucoup moins de clients.
Ça veut dire le dialogue, extrêmement important dans le couple, et au niveau de sexuel, au sens très large, il faut oser parler de tout.
Il faut être libre de sexuellement. Et je crois que peut-être c'est une pudeur qui s'installe chez les couples, et que cette pudeur, nous, on n'a pas vis-à-vis du client, parce qu'on sait que ça sera une fois ou deux fois, puis qu'on ne le reverra pas. Et c'est vrai qu'il y a des clients qui nous demandent des choses, qui pourraient demander amplement à leur femme, qu'il n'y a rien de choquant, hein. Je trouve pas ça choquant. Mais peut-être qu'il s'est installé une routine dans leur couple ou... Oui, je pense qu'ils n'osent pas demander parce que peut-être la femme, elle est trop prude. Mesdames, occupez-vous bien de vos maris, on en aura moins.